France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également sur le canal 27.2, la TNT. Et les voilà, n'hésitant pas à faire le robot sur le dance floor de l'actualité et hop, on enchaîne sur un moonwalk et la chorégraphie est parfaite. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Jeannick Halimi, bonsoir, du Parisien aujourd'hui en France, également le sociologue Nicolas Framont, bonsoir.
Bonsoir.
David Dégouille, bonsoir, vous êtes journaliste à Causeur et Figaro Vox et vous venez d'ailleurs de sortir votre dernier livre qui s'intitule Dérapage. Qu'est-ce que c'est rapidement Dérapage.
Roman politique fiction.
Ah ben voilà, ça tombe bien en plus. Voilà, nous sommes plus du tout dans la fiction mais dans la politique. Et Paul Quignot de Loves, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, la campagne du second tour continue et rentre dans le dur. Tout le monde veut être Premier ministre. Macron avec un pince-nez et peut-être peut-on être abstentionniste en France. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors ce n'est pas le sujet qui a agité la campagne, mais concernant la légalisation du cannabis, on connaît la position de Marine Le Pen et du Front National, tolérance zéro et aucune évolution de la législation. Ça c'est pour le cannabis. Concernant le LSD, on peut avoir l'impression que Marine Le Pen est un peu plus souple, notamment quand on écoute et regarde sa promenade en mer ce matin, en bateau, au large des Saintes-Maries-de-la-Mer, aux côtés de Gilbert Collard, qui a un très très beau chapeau de mousse. Et ça, ça donne des images et surtout un son assez étonnant.
Oh ! On a vu un dauphin.
Non.
Ouais.
Où?
Là.
Ah non mais c'est pas possible, il faut le revoir.
Oui, mais on l'a vu.
Le dauphin là. Non, non mais appelez-le. Ah mais bon, j'appelle les dauphins.
Il a loupé un dauphin là.
Voilà, donc Marine Le Pen qui fait le dauphin. Voilà, il reste 10 jours hein, quand même avant le second tour, faut pas craquer. Donc une visite symbole en région PACA auprès de pêcheurs, immédiatement commentée par Emmanuel Macron sur Twitter. Madame Le Pen se promène à la pêche, bonne promenade. La sortie de l'Europe qu'elle propose, c'est la fin de la pêche française. Pensez-y. Hier à Whirlpool, donc sans prévenir, ce matin avec les pêcheurs au Gros du Roi, ce soir en meeting à Nice. Marine Le Pen, Jeannick Halimi, là, elle accélère véritablement sa campagne.
Parce qu'elle en fait... il reste 2 semaines. Hein. Donc il faut bien, le compte à rebours a vraiment commencé. Effectivement, c'est ce qu'on a dit en disant que Marine Le Pen accélérait, c'était surtout pour insister sur la lenteur, voire le ratage de démarrage d'Emmanuel Macron. Mais quand on fait le point sur les séquences de cette campagne de Marine Le Pen, un quart d'heure à Rungis lundi, à Whirlpool, 20 minutes oui. ou 10 minutes avec des smileys et des bises aux salariés, pauvres salariés, enfin... En tous les de Whirlpool et puis là qu'on voit on est quoi aujourd'hui
jeudi
la chasse aux dauphins ou la pêche aux dauphins bon elle mène sa campagne comme elle veut hein elle accélère si elle veut.
Alors, mais en fait je crois qu'on n'a pas forcément dit ça par rapport à Emmanuel Macron, on a dit surtout par rapport à sa campagne de premier tour, on disait tiens Marine Le Pen
il y a ça aussi voilà. Vous avez raison parce qu'à la fin elle avait patiné pour X raisons, une fatigue personnelle et puis peut-être des dissensions au sein du parti sur la ligne notamment vis-à-vis de l'euro à tenir qui l'a entravé un peu, mais voilà, elle mène sa campagne, on en reparlera, ouais, je pense, tout à l'heure.
Nicolas Framont, pour vous, est-ce qu'elle, aujourd'hui, Marine Le Pen, par rapport à Emmanuel Macron, dans la campagne, est-ce que c'est elle qui fixe le tempo, d'après vous?
Je m'y connais pas assez en communication politique pour ça, mais en tout cas...
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est elle qui donne le là de la journée et après, Emmanuel Macron s'y colle?
Il y a eu l'épisode d'Amiens hier, qui était assez étonnant, qui était plutôt un coup bien réussi, même si tout le monde a dit qu'Emmanuel Macron a rattrapé. Mais aller montrer, c'était pas seulement faire des bisous, c'était montrer sa solidarité avec des grévistes. Forcément, ça porte. Et en plus, elle est allée dans une zone qui a voté pour... elle et Jean-Luc Mélenchon. C'était plutôt habile. Après, elle n'a rien proposé de concret. Elle a fait de très vagues promesses. Donc, je ne sais pas si on peut dire
elle a parlé de nationalisation temporaire.
Oui, mais elle l'a dit sans y croire. Ça se sentait, évidemment. Et pour moi, aller voir des ouvriers et leur dire que tout va bien se passer sans proposer vraiment de remise en cause de ce qui les a amenés dans cette situation et ensuite aller se promener sur un chalutier, c'est pas, pour moi, fixer le tempo et trouver des solutions.
Ouais. Paul Quignot, on voit aujourd'hui, c'est vrai que Marine Le Pen fait beaucoup, beaucoup de communication. C'est vrai qu'on l'entend peu finalement sur les autres sur des sujets.
En tout cas, je pense que l'opération d'hier, à l'arrivée, n'était pas une opération réussie pour elle. D'abord, c'était une opération improvisée. Ça prouve que c'est toujours compliqué de vouloir caler son tempo sur la campagne d'un autre, puisque c'est ce qu'elle a fait.
Elle
est allée à Amiens parce que Macron y était. Donc, elle a improvisé un rendez-vous. On a eu le sentiment, effectivement, dans un premier temps, que ça lui profitait dans la journée, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment le cas aujourd'hui. Et si elle continue d'accélérer comme elle a accéléré ce matin avec Collard sur son bateau, qu'elle continue à accélérer comme ça, je pense que ça sera très bien.
David Aiguille, on voit quand même pourtant, c'est pour ça qu'on parle d'accélération de la part de Marine Le Pen, puisque vous savez, personne n'aime les sondages, mais on passe notre temps à les regarder. Hein, et on voit dans les intentions de vote qu'Emmanuel Macron recule un brin. Alors est-ce que c'est le résultat justement d'un début de campagne réussi pour Marine Le Pen juste après le premier tour?
Elle a fait deux prestations télévisées successives, l'une à France 2, l'autre le lendemain sur TF1, où elle a été quand même assez offensive. Et puis elle se sent, j'ai l'impression, beaucoup plus à l'aise dans cette campagne de deuxième tour que dans les derniers temps de la campagne du premier, parce que la confrontation avec Emmanuel Macron, c'est quand même celle qu'elle attendait. La stratégie qu'elle a mise en place avec Florent Philippot depuis quelques années mène à ce duel avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire sur les thématiques de la mondialisation et de l'Europe. Mmh. Et donc elle est beaucoup plus à l'aise que quand elle était en concurrence avec François Fillon sur le côté à droite toute.
Mais c'est ça, oui, Jeanne Caïmi.
Oui, pourquoi aussi on a l'impression qu'elle accélère et qu'elle se libère, en tout cas qu'elle fait sauter toutes ses entraves en apparence avec tous les bémols que les uns et les autres nous avons mis, hein, bien évidemment. C'est que c'est la challenger, donc elle a, entre guillemets, elle a plus rien à perdre. Emmanuel Macron, il faut qu'il consolide et qu'il fasse pas d'erreur. Elle, il faut qu'elle engrange. Et là où je trouve que je rejoins ce que disait Paul Quignot tout à l'heure, où là je pense, en tout cas jusqu'à présent, il reste encore une dizaine de jours, qu'elle fait peut-être une erreur, ou en tout cas que ce n'est pas une stratégie extrêmement efficace en termes électoral pour le coup, c'est qu'elle va sur des terres déjà conquises pour le moment. Les ouvriers dans le Nord, en région PACA sur les thèmes de l'identité, les pêcheurs et l'agriculture, c'est des zones et des électorats qu'on peut considérer acquis, alors que Emmanuel Macron, c'est un peu le contraire. Le Nord et les ouvriers, on sait que c'est pas son électorat socle. Les banlieues, ça aurait pu le devenir, il a raté les banlieues. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, après le premier tour, les banlieues n'ont pas voté pour lui. Donc, s'il réussit, sa stratégie, elle risque d'être plus payante, parce que plus risquée, mais à la fin, plus rentable, si je puis dire, en termes électoraux.
On continue à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
300 enfants sans doute victimes d'une intoxication alimentaire à Rouen et dans une commune toute proche. On vient de l'apprendre, ils sont victimes de nausées et vomissements depuis plusieurs heures. Ces symptômes laissent penser à une intoxication d'origine alimentaire. Selon la préfecture de la Seine-Maritime, 41 écoles primaires et élémentaires sont concernées, selon France Bleu, et 6 crèches. Plusieurs milliers de manifestants dans plusieurs villes de France en faveur du Nini, ni Marie, ni Macron, ni patrie, ni patron. Des centaines de personnes rassemblées à Paris, Rennes ou encore Nantes. Dans la capitale, environ 1000 lycéens ont marché de la place de la République au cours de Vincennes. Des affrontements avec les forces de l'ordre, des poubelles brûlées et une vitrine brisée. Un homme arrêté dans le centre de Londres, soupçonné de préparer un acte terroriste. La police britannique a été déployée en nombre sur Whitehall en fin d'après-midi. L'artère londonienne où se trouvent de nombreux bâtiments ministériels, tout près de Westminster. L'homme a été interpellé à la suite d'un contrôle. Des armes blanches ont été retrouvées sur lui. Journée morte en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, les Palestiniens sont en grève générale en solidarité avec les grévistes de la faim dans les prisons israéliennes. Les rues de Ramallah étaient désertes aujourd'hui, les transports à l'arrêt. Grève exceptionnellement suivie pour soutenir les 1500 détenus palestiniens qui ne s'alimentent plus depuis 10 jours pour protester contre leurs mauvaises conditions de détention. Et puis le tribunal d'Imperia dans le nord-ouest de l'Italie relaxe un Français de 28 ans arrêté l'été dernier à Vintimille pour avoir tenté de faire passer la frontière entre l'Italie et la France à une famille soudanaise.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on a parlé de la promenade en mer de Marine Le Pen. Alors, d'ailleurs, avec notre équipe, on a remarqué que Gilbert Collard, avec son petit bonnet, il ressemblait à Mouche, vous savez, dans Peter Pan, le bras droit du capitaine Crochet, voilà un petit peu. Donc, je ne sais pas si c'est une référence, en tout cas. Voilà, on a celle qu'on peut. Donc, pendant ce temps-là, donc un peu plus tard dans l'après-midi, Emmanuel Macron, lui, était en région parisienne, à Sarcelles. Et forcément, alors qu'il rencontrait des associations sportives, eh bien, un sujet est arrivé sur la table. Marine Le Pen, on écoute Emmanuel Macron.
Je ne suis pas obsédé par Madame Le Pen. Je trouve que Sarcelles, c'est une formidable leçon de ce qu'est la France. De ce qu'est la France. Et la France, ça n'est pas ce que dit Madame Le Pen. La France, ça n'est pas la haine de l'autre. La France, ça n'est pas le rejet de l'autre. Et je le dis à tous nos concitoyens. Ici à Sarcelles, il y a toutes les religions. Ici à Sarcelles, il y a des Français de toutes les couleurs. Ici à Sarcelles, il y a des Français qui viennent de tous les pays du monde. Et ils y vivent bien. C'est pas une ville qui s'embrase. Il y a des gens qui vivent ensemble. Et la France, c'est cela son histoire.
Voilà, Emmanuel Macron, donc, aujourd'hui à Sarcelles. Alors, Paul Quignot, on avait reproché un petit peu à Emmanuel Macron de peut-être pas prendre la mesure, finalement, de ce moment de deuxième tour face à Marine Le Pen. Est-ce que maintenant, au contraire, est-ce qu'il n'y a pas un piège à ne parler finalement presque que de Marine Le Pen? Il dit, je fais pas une obsession, mais depuis hier soir, on l'a vu à Arras faire un discours où il évoquait presque que Marine Le Pen. Là, à Sarcelles, en fait, il n'a parlé que de Marine Le Pen. Est-ce que finalement, c'est pas un piège et de ne pas pouvoir développer d'autres propositions?
En même temps, il parle de son adversaire. Ils sont plus que deux, donc ça me paraît assez logique qu'il parle de Marine Le Pen. Par ailleurs, c'est pas une candidate comme les autres. Donc là, quand on vient de l'entendre, il est sur un registre de, il veut mobiliser les gens sur les valeurs. Voilà, le vivre ensemble, les religions qui se côtoient. Donc il va essayer de mobiliser l'électorat qui hésite et qui, dans une espèce d'amalgame étonnant, met sur le même plan un parti extrémiste d'extrême droite et un candidat qu'il considère comme trop libéral. C'est-à-dire que, voilà, on confond un combat de valeurs avec un combat politique. On peut avoir des désaccords avec Emmanuel Macron. On peut considérer qu'effectivement, il est un candidat trop libéral. Ça, c'est des désaccords politiques. Je trouve étonnant que des gens fassent soit dans une sorte de confusion mentale entre un combat pour les valeurs, pour la République, avec un combat politique normal. Ce n'est pas la même chose. Et c'est là-dessus que va essayer de jouer Emmanuel Macron pour mobiliser cet électorat qui a l'air un petit peu flottant.
On entendra un manifestant d'ailleurs tout à l'heure qui va pas du tout dans votre sens d'ailleurs, Paul Quignot. Mais David Degout, c'est ça finalement aujourd'hui, Emmanuel Macron, à votre avis, son axe de campagne, ce n'est plus du tout de développer d'autres idées que, comme Paul Quignot disait, sur les valeurs républicaines, sur le vivre ensemble, sur ces choses-là?
Oui, il a décidé d'employer cette stratégie. Je suis pas sûr que ça soit vraiment payant aujourd'hui en 2017.
C'était pourquoi? Parce que ça serait davantage économique, vous diriez?
Il a peut-être plus intérêt d'aller sur l'économie, parce que c'est peut-être la faiblesse de Marine Le Pen, en tout cas dans l'opinion par rapport aux problématiques européennes. Il y a une crainte de la part notamment de l'électorat âgé sur l'euro. Elle est un petit peu plus faible au niveau de l'électorat pour ça. Donc aller sur le refaire 2002. Pas sûr que ce soit une bonne idée pour lui.
Alors justement, à propos d'Europe, hier, les députés européens ont entamé la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen pour utilisation frauduleuse de fonds européens. La fameuse affaire des assistants parlementaires Frontis, pour laquelle Marine Le Pen a refusé de se rendre à la convocation des juges. Souvenez-vous, c'était en février. Le Parlement européen évalue désormais à près de 5 millions d'euros son préjudice potentiel. Cette somme correspond en fait au salaire qui aurait été versé frauduleusement, donc entre 2012 et 2017, à des assistants d'eurodéputés FN au centre d'une enquête donc sur des soupçons d'emploi fictifs. Nicolas Framont, c'est vrai, de l'avocat de Marine Le Pen, donc crié au complot, il dit que par rapport au calendrier, ce n'est pas innocent. C'est vrai qu'on l'a remarqué depuis le début, cette affaire ne touche absolument pas Marine Le Pen, même dans l'opinion. On n'a pas l'impression que ça imprime sur Marine Le Pen.
Oui, parce que le reproche sur le calendrier, on entend ça tout le temps, on entend ça pour Fillon, mais au bout d'un moment, il faut bien que les juges fassent leur travail, même pendant les élections. Bon, à partir de là, ça ne tient pas à la route. Par contre, moi, je pense que son électorat, l'Union européenne ait perdu de l'argent, ça le touche pas plus que ça, si vous voulez. Donc, à partir de là, l'empathie pour les institutions européennes est particulièrement faible dans l'électorat de Marine Le Pen.
Ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, la France contribue à ce budget, donc finalement, c'est aussi notre argent.
Oui, mais vu que c'est une structure qui est délégitimée, finalement, moi, je pense que ça se passerait dans le cadre national, ça serait plus mal perçu par ses électeurs.
Oui, c'est ça, Jeannick Halimi, parce que le chiffre est assez impressionnant, enfin, est important quand même, 5 millions d'euros.
Probablement le fait que ça touche l'Europe, en tout cas dans son effet d'affichage. Un, c'est plus loin, et deux, ça participe du discours intrinsèque anti-européen de Marine Le Pen. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que ça n'a pas d'impact, vous disiez.
Oui.
Alors ça n'a peut-être pas eu l'impact de fracas, et le fracas et l'impact fracassant, si je puis dire, que les affaires toutes nouvelles, qui ont éclaté pour le coup dans tous les sens du terme, sur la candidature et le score donc final de François Fillon. Certes, mais tout de même, la relation de cause à effet est évidemment toujours très difficile à établir, mais la cote et finalement les résultats de Marine Le Pen aux élections montrent quand même que sa cote s'est effritée sur ces derniers mois. Elle était partie, alors je ne parle même pas d'il y a un an, entre c'était 25, 26, 27, 28, voire 30 dans certains sondages. Elle était quand même, en tout cas, restée pendant très longtemps numéro 1 des deux.
Vous pensez
dans
que
les
finalement
sondages.
Ces affaires d'emploi fictif
Je pense que ça a contribué. Je ne peux pas vous dire que ça a contribué à 100% dans les petites érosions de sa cote. Il y a eu aussi la dynamique de monsieur Macron, probablement. Bon, et puis peut-être aussi le score de Dupont-Aignan. Mais ça a certainement joué. Donc on ne peut pas dire que l'électorat, quel qu'il soit, y compris... il faut bien comprendre que l'électorat de Marine Le Pen, potentiel, et comme son nom l'indique, va au-delà de son socle.
Ouais.
Donc je ne parle pas du socle, qui est peut-être imperméable à tout ça. Mais
Paul Quignot, vous pensez-vous que ça a pu avoir un quelconque impact, justement ?
Je pense que ça l'a fragilisé, pas dans la même mesure que François Fillon, évidemment, mais ça a quand même fragilisé, parce que ça l'a surtout empêché de jouer sur ce registre-là pendant la campagne, parce qu'elle aurait pu attaquer Fillon encore plus et dénoncer la classe politique corrompue, le fameux tous pourris, pardon. Elle n'a pas pu le faire à cause de ça, puisque immédiatement, c'est d'ailleurs je ne sais plus qui l'a fait sur un des plateaux pendant les débats, mais je crois que c'était Mélenchon, disant voilà sur le plateau il y en a deux qui ont des affaires en fesses en ce moment et on ne met pas tout le monde dans le même sac. Donc ça l'a quand même empêché de jouer sur ce registre-là, ce qui aurait pu lui profiter si elle avait pu le faire.
Et finalement, aujourd'hui, le fait de, comme le disait Nicolas Framont, finalement, aussi, que ça se passe sur l'Union européenne, il y a un désamour des Français sur l'Europe, vous pensez ?
Non, moi, j'en suis beaucoup moins convaincue. Alors, on sort toujours le référendum de 2005. Il y a des sondages qui paraissent ici et là. Non, parce que alors qu'on veuille l'améliorer, ça, c'est
sûr. Bien sûr.
Mais, encore une fois, si je pense...
Vous avez vu sur TF1, elle a dit « je suis européenne ».
Voilà. Non, mais voilà. Pourquoi? Parce que sa position à elle, du FN, en tout cas, d'une partie du FN, en tout cas, celle qu'elle affiche, elle, en tant que présidente, contre l'euro et contre l'Union européenne et la sortie de l'euro qui a été la sienne pendant très longtemps, elle sait bien que c'est un plafond de verre auprès des CSP+, et que ça l'empêche de le crever et d'aller plus loin. Donc là, elle arrondit les angles, en tout cas, en apparence. On va discuter, on fait un référendum, je suis européenne. Donc je ne pense pas, je pense que fondamentalement, les Français, quels qu'ils soient, et notamment les seniors, mais pas que, reste attaché à l'Europe.
On continue à parler de la campagne, et notamment des mouvements de protestation qui ont accompagné cette journée. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Emmanuel Macron hausse le ton contre la Pologne. Le candidat d'En Marche se dit favorable à des sanctions contre Varsovie, alors que le dossier de délocalisation de l'usine Whirlpool d'Amiens s'est invité hier dans la campagne. « Je ne poursuivrai pas l'Europe comme elle est », lance Emmanuel Macron, accusé par sa rivale Marine Le Pen d'être le candidat de la mondialisation sauvage, la candidate d'extrême droite en meeting à Nice ce soir. Un pas de plus vers la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. La Commission européenne valide la conformité du projet avec la réglementation européenne. Elle classe donc sans suite la procédure et autorise l'évacuation de la zone et le début des travaux. Le quartier des Arènes de Nîmes bloqué cet après-midi pour une opération de police. 7 interpellations au total par le RAID. Selon nos confrères de France Bleu Gare-Lozère, les forces de l'ordre avaient été appelées à la mi-journée pour des coups de feu sur la voie publique. Visiblement un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. À Berlin, les policiers ont tiré sur un homme cet après-midi sur le parking d'un hôpital du quartier de Kreuzberg. Il est blessé à une cuisse. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait cherché à agresser le policier avec une arme. Pas d'informations ce soir sur la nature de cette agression. Et puis jusqu'à une heure de retard encore ce soir sur la ligne de train Paris-Strasbourg. Après des vols de câbles la nuit dernière en région parisienne, les TGV doivent encore rouler à vitesse réduite ce soir. Le retour à la normale est prévu pour demain matin.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, également le sociologue Nicolas Framont, David Dégouille, journaliste à Causeur et Figaro Vox, et Paul Quignot de l'Obs. Alors demain, ils sortent de l'ombre et... Ben enfin voilà, parce que c'est pas facile de faire des bandes annonces pour les futurs événements de la campagne tant on avance dans le flou. Demain, Jean-Luc Mélenchon sortira de son silence pour s'exprimer sur sa chaîne YouTube et Nicolas Dupont-Aignan dira pour qui il vote. Autre grande muette, Martine Aubry, hein, puisqu'à part un tweet dimanche dans lequel la maire de Lille appelait à faire barrage à Marine Le Pen, jamais elle ne cite le nom du candidat d'En Marche, puisque selon un de ses proches, je cite, c'est au-dessus de ses forces. En fait, voilà. Aujourd'hui, des manifestations de lycéens à Paris et à Toulouse et même à Nantes ont relancé le Nini et tenté mobilisés contre ce second tour, parole de militants dans la manifestation parisienne.
Qu'un parti néo-nazi, néo-fasciste puisse accéder au second tour des élections en France, c'est complètement aberrant. Surtout quand un pays a connu la Seconde Guerre mondiale, c'est inacceptable.
Donc c'est vraiment une manif anti-FN.
Anti-FN et anti-Macron, parce que ce soit le fascisme ou l'ultralibéralisme, c'est pas ce qu'il faut pour le pays en fait. Ces élections me dégoûtent. D'ailleurs, je m'abstiens au second tour. Je veux pas voter pour quelque chose qui ne me représente pas.
Voilà, donc c'était une militante, une manifestante aujourd'hui donc dans le rassemblement parisien. Nicolas Framont, pour vous, d'où vient ce dont parlait Paul Quignot tout à l'heure, ce sentiment de mettre sur le même plan Emmanuel Macron et Marine Le Pen chez certains?
Ce qu'on voit dans le discours de cette personne, c'est que quand même, il y a une distinction qui est opérée, elle parle quand même de néo-nazis.
Voilà.
Il faut voir, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui a changé depuis 2002.
Oui.
On a dit pourquoi il n'y a pas ces grandes manifestations spontanées comme en 2002. Mais c'est parce que depuis, on a eu des gouvernements qui n'ont tiré aucune leçon du phénomène Front National et qui ont appliqué des politiques qui ont contribué à diviser la société. Donc il y a ce sentiment, si vous voulez, de la part notamment des jeunes générations, de ne pas vouloir reconduire ce qui a représenté cette impasse, ce qui a nourri ce Front National et qui est représenté par le candidat Macron, qui tient aussi un discours de division de la société, mais sur un tout autre registre. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut évidemment pas mettre sur le même plan quelqu'un qui remet en cause la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv et quelqu'un qui pratique, qui a des idées, si vous voulez, qui sont plutôt favorables aux classes supérieures et qui, à mon sens, déstructure la société. Par contre, je peux constater que les politiques qui déstructurent la société, qui réduisent une part des solidarités, contribuent au désespoir qui est au Front National. Donc, si vous voulez, moi, le fait qu'on fasse une équation commune, je le comprends, je l'entends, et j'ajouterais également qu'il y a aussi une réaction par rapport à tout ce que y a été envoyé au visage des gens qui doutaient de vouloir voter Emmanuel Macron. Je pense notamment, alors ça a été le cas vis-à-vis des électeurs mélenchonistes. Oui. On a vu dans l'Obs cet édito au titre hallucinant « Sans culotte, sans couille », ce qui est un titre non seulement viriliste, mais qui fait preuve je pense, fait un procès extrêmement injuste et qui, et j'ajouterai, je terminerai là-dessus, ouais, tous ces procès qui sont faits aux abstentionnistes et qui sont violents, et on y reviendra, moi, ne vont pas du tout aider à clarifier la situation et à pousser au vote Macron.
Paul Quignot, quand vous entendez ça, justement, pas sur l'Obs,
parce que d'abord, le mot couille n'était pas employé, on avait été un petit peu plus malin que ça, mais...
Je suis
consterné qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on comprend le discours de la jeunesse et qu'on fasse la confusion entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Au lieu de dire on comprend, on pourrait juste essayer d'expliquer à ces jeunes que si Marine Le Pen avait été élue en 2007, que si Marine Le Pen avait été élue en 2012, la situation serait sans doute bien pire et leur situation à eux serait bien pire. Donc je trouve ça hallucinant, en fait, et encore une fois, je trouve qu'il y a une différence, qu'on ait des désaccords politiques avec Emmanuel Macron. Je ne suis pas Macron-dolâtre. Je peux entendre que certaines de ses propositions sont trop libérales et que l'Europe, effectivement, doit changer. Mais de là à mettre sur le même plan qu'un démocrate dont on peut encore une fois contester les orientations politiques, et Marine Le Pen, qui est à la tête d'un parti qui, à mes yeux, reste un parti anti-républicain, qui est affilié à des groupuscules d'extrémistes néo-fascistes, je trouve ça juste consternant.
Ouais. David Dégouille, pour vous, aujourd'hui, quand vous voyez ça, quand vous avez entendu finalement cette jeune fille, alors c'est pas les plus nombreux, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup moins de rassemblements qu'en 2002, mais on voit très bien, les mots sont durs, ça veut dire, il y a un moment, ce que vient de dire aussi Nicolas Framont, ça veut dire c'est ce qui provoque aujourd'hui peut-être la montée du Front National, des politiques, Macron, Le Pen.
Oui, ben, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Framont il y a un instant. On n'a pas quand même, quand on écoute cette jeune fille, on n'est pas en présence d'un discours extrêmement structuré. Ils ont 17, 18 ans. Il y a un côté aussi... Je fais ma rebelle, voilà, et c'est pas non plus.
Mais non, il y a peut-être des gens aussi qui l'expriment sans être dans la rue aussi, vous voyez, ce discours. Ah ouais, voilà, c'est ça aussi.
Alors, il y a des abstentionnistes, on en parlera
oui,
tout
on va
à
en
l'heure,
dans un instant.
Qui sont un petit peu plus, qui n'ont pas forcément un discours qui a été celui de cette jeune fille qui était quand même effectivement très caricatural.
Ouais, alors justement, on va en parler dans un instant de l'abstention. On parlera également, on continuera à parler de ces personnes qui veulent faire barrage à Marine Le Pen, mais sans jamais citer le nom d'Emmanuel Macron, c'est un exercice d'équilibrisme assez étonnant. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Tous les jours à 7h05, on démarre ensemble votre journée de travail avec C'est mon boulot, l'actualité de votre vie au travail. Parce que les conditions de travail changent à toute vitesse, parce que l'entreprise du 20e siècle, c'est fini, et aussi parce que le salariat n'est plus le modèle unique, C'est mon boulot décrypte tous ces mouvements à 6h55, 10h25 et 13h20 sur France Info.
Musicora et les concerts de Radio France.
Du 28 au 30 avril à la Grande Halle de la Villette, retrouvez la programmation de l'auditorium de Radio France au salon Musicora.
Musicora, 3 jours d'événements pour les musiciens professionnels et amateurs, les mélomanes et tous ceux qui veulent découvrir la musique et les instruments.
Du 28 au 30 avril, rendez-vous sur le stand des concerts de Radio France pour tout savoir sur la saison 2017-2018.
Informations sur maisondelaradio.fr et musicora.com.
France Info Météo avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore frais et variable, une nouvelle dégradation à bord de le Nord ce soir. Demain, on la retrouvera de la Bretagne et des Pays de la Loire vers le centre, l'Île-de-France, le Nord, les Ardennes avec des averses. On aura encore de la pluie du Jura au nord des Alpes, de la neige vers 800 mètres. Ailleurs, des nuages, un peu de grisaille, des éclaircies très belles vers le sud-ouest. En Méditerranée, du soleil mais du vent fort jusqu'à 90 km à l'heure, 110 sur les caps corses. On aura encore quelques gelées le matin, 3 à 9 degrés sur les côtes. L'après-midi, les averses du Nord gagneront le massif central, le nord des Alpes. Il neigera en montagne. Il restera du soleil en Méditerranée, dans le sud-ouest également, et on en retrouvera le long de la Manche. Il fera 10 degrés à Aurillac, 12 à Lille, à Nancy, à Dijon, 13 à Lyon, 14 degrés à Paris, Brest et Tours, 15 à Nantes, à Toulouse et 18 degrés pour Montpellier et pour Nice.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, on retrouve Fanny Bouvard, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Pas de répit dans la campagne présidentielle, nouveau rendez-vous ce soir pour les deux candidats. D'ici quelques minutes, Marine Le Pen va prendre la parole à Nice. Emmanuel Macron, lui, sera dans une demi-heure en direct sur TF1. Deux candidats qui veulent toujours convaincre les potentiels abstentionnistes ou encore les électeurs tentés par un vote nul. Près de 3000 personnes ont d'ailleurs manifesté aujourd'hui en France, à Paris, à Rennes, à Clermont-Ferrand ou encore à Toulouse. Et à chaque fois, le même slogan, ni Le Pen ni Macron, des cortèges principalement composés de jeunes et marqués par quelques tensions avec les forces de l'ordre. Marine Le Pen toujours dans le viseur du Parlement européen dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de plusieurs assistants parlementaires. Il publie aujourd'hui les estimations du préjudice potentiel et il se porte à 5 millions d'euros. Troisième jour du procès de Francis Holm à la cour d'assises de Moselle aujourd'hui pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-lès-Metz. Et c'est aujourd'hui le portrait de Holm qui a été dépeint. Certains membres de sa famille sont venus témoigner à Metz, Delphine Gotcho.
Dans l'histoire de Francis Holm, il y a 2 femmes. Jeanne, la mère adorée, morte à 44 ans d'un cancer fulgurant en 1984. Francis Holm a 25 ans, c'est un tournant dans sa vie. À son enterrement, il se jette dans le trou avec elle. 3 semaines après, il tue pour la première fois. Cette mère qui l'adorait, qui le protégeait, mère battue par un mari alcoolique et violent, le jeune Francis s'interpose, lui que son père surnommait le zinzin ou le taré et à qui il ne laissait parfois rien à manger. Alors l'enfant se nourrit de boîtes de pâté pour chien. Francis Holm s'enferme souvent dans sa chambre, lit des picsou, fait des puzzles. Sa passion, c'est le vélo, son Mercier rose qu'il chérit plus que tout, raconte sa sœur à la barre. Elle est l'autre femme de la vie du tueur en série. Francis, il a son caractère, mais il a un cœur quand même, pas une pierre, assure Christine Holm. Cette sœur, seule capable de déclencher une émotion chez Francis Holm, quand elle se tourne vers lui aujourd'hui et lui lance « Tu es dans un tunnel noir, tu vas en sortir, je serai toujours là pour toi », il y a des larmes dans les yeux de Francis Holm. À Metz, Delphine Gotcho, France Info.
Joseph Blatter, l'ancien président de la FIFA, entendu ce mois-ci par des enquêteurs français. On l'apprend seulement aujourd'hui. Le parquet national travaille en fait depuis 2016 sur l'attribution des Coupes du monde de football 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Enquête notamment pour corruption privée, association de malfaiteurs ou encore trafic d'influence. Plus de 300 jeunes enfants pris de vomissements aujourd'hui à Rouen et dans une commune de l'agglomération. Inscrits dans une cinquantaine d'établissements différents, ils ont mangé de la nourriture provenant d'une même cantine centrale. Pas d'inquiétude ce soir pour leur santé, dit la préfecture. Tous ont été pris en charge. Toujours de 30 minutes à 1 heure de retard pour les trains de la ligne Paris-Strasbourg ce soir. Cela fait suite à des vols de câbles en région parisienne la nuit dernière. La SNCF annonce porter plainte et parle donc d'un retour à la normale d'ici demain matin. France Info, il est 20h33 et tout de suite la deuxième partie des informés avec bien sûr Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Et eux, ils aimeraient bien que la campagne rime avec pâquerette, genre de flûte dans les gais pâturages, régalade d'abricots. Mais non, la campagne est avant tout politique et présidentielle et ils en font leur miel. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Yannick Halimi du Parisien Aujourd'hui en France, le sociologue Nicolas Framont, rebonsoir, David Dégouille, journaliste à Causeur et Figaro Vox, et bonsoir. Paul Quignot de l'Obs. Nous étions en train de parler justement de ces manifestations cet après-midi qui ont un peu remué à Paris, également à Toulouse, à Rennes et Nantes. Juste Yannick Halimi, je voudrais juste avoir votre avis sur la discussion d'avant le journal, c'est ces manifestants qui mettent sur le même plan. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, en disant que voilà, la cause de Marine Le Pen se trouve chez Emmanuel Macron.
Oui, alors juste déjà un point, parce que j'ai écouté les commentateurs, ça a l'air d'être, ils sont moins des représentants d'une nouvelle génération sans repère que des ultra extrêmement
bien sûr,
politisé.
Bien sûr,
remettre quand même les choses à leur place et rendre hommage à toute la grande majorité de la jeunesse qui se mobilise contre Marine Le Pen, d'accord.
Mais quand on voit les votes, on se rend compte que c'est pas toute la jeunesse.
Ah non, mais d'accord, mais c'est pas non plus la majorité. Et je viens justement à l'analyse des transferts de vote. Il y a quand même une forte partie, alors certes, qui va dans l'abstentionnisme. Je suis d'accord avec vous. Et là, on retrouve. Mais il y a aussi une forte partie qui va vers Emmanuel Macron. Bon, voilà.
Et Jean-Luc Mélenchon, aussi, hein, vous savez, sur le candidat sur la jeunesse, Jean-Luc Mélenchon.
Non, je parle du second tour.
Excusez-moi, pardon.
Non, je vous en prie.
C'est pas compris,
Jeannie. Nous sommes entre les deux tours, Jean-Mathieu.
C'est vrai,
donc,
ça y est déjà.
Voilà. Et alors, effectivement, moi, pour revenir alors sur le fond, il faudrait aussi peut-être expliquer. Je rejoins ce que disait Nicolas Framont, pourquoi tout ça, pourquoi une sorte d'égalitarisme, là, enfin de nivellement entre les.
Entre les deux.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même la crise financière. De 2008, qui explique aussi Trump, etc. C'est vrai que les gouvernements de droite comme de gauche ont raté, ont échoué. Donc ça peut aussi, alimenter une sorte d'anti-tout, quoi, tous pareils et anti-tout. Mais ce qu'il faut expliquer, pardon, je termine là-dessus, cette jeunesse sans repère, ou en tout cas, c'est que Emmanuel Macron, contrairement à ce que vous disiez, Nicolas Framont, là, ce capitalisme débridé sans règles, sans foi ni loi. Non, regardez son programme. C'est celui qui, en tout cas parmi les candidats présidentiables, qui coupe le moins, on peut lui en faire grief pour certains, mais dans les prélèvements obligatoires, c'est pas 500 000 fonctionnaires qu'il veut supprimer, c'est 100-120 000 avec les fonctionnaires locaux. Contrairement à d'autres qui voulaient toucher à la sécurité sociale et au modèle social français, il touche pas du tout à la sécurité sociale. Donc, c'est pas un capitalisme
débridé.
On peut lui en demander un peu plus. Effectivement.
On va vous répondre à Nicolas Framont quand vous entendez ça. Emmanuel Macron.
Je suis d'accord qu'effectivement, si vous comparez le programme de François Fillon et celui d'Emmanuel Macron, il y a vraiment un écart de degré, etc. Moi, je constate cependant qu'il porte des projets qui sont dans la continuité, pas une continuité radicale, pas un ultralibéralisme débridé comme on l'entendait tout à l'heure. C'est pas le thatcherisme non plus qui est à nos portes. En revanche, c'est quand même la continuité de ce qui a été fait sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, qui voilà des projets comme la loi travail que lui compte radicaliser en augmentant son ampleur, etc. Ce sont des projets qui contribuent tout de même à augmenter les inégalités sociales. C'est le cas depuis 10 ans, c'est-à-dire au moins en étant dans la continuité, il contribue à augmenter ces inégalités sociales là. Et cette fracture sociale, très terme ancestral qu'on utilise dans les débats politiques, mais cette fracture sociale, elle est plus grande qu'en 2002, et elle participe, quand on le voit, hein, qui vote Front National, bah, c'est plutôt les gens plus pauvres, c'est plutôt les gens moins diplômés, c'est plutôt les gens plus au chômage, et voilà. Est-ce après...
Que... Oui, mais alors, moi, je ne mettrai pas...
Alors, Jannick, d'abord, je vois aussi les autres.
Non, mais
allez-y, Jannick.
La loi flexibilité, elle n'est pas encore entrée en application, donc on ne peut pas dire qu'elle creuse les inégalités. Ce qui creuse les inégalités, c'est essentiellement le chômage, et justement, alors on peut être pour, on peut être contre, mais ça n'a pas encore fait ses preuves en France. Plus de flexibilité consiste, en tout cas dans le discours d'Emmanuel Macron, qu'il n'a peut-être pas assez conceptualisé. Là, je suis d'accord, mais en tout cas, des prix Nobel comme Jean Tirole, par exemple, le disent et le prouvent, que plus de flexibilité permet de remettre en marche l'ascenseur social.
Mais moins de sécurité aussi, on vous dit.
Mais c'est ce qui est fait depuis 10 ans,
parce
si vous voulez.
Moins de sécurité, non. Il y a plus de flexibilité, mais dans le projet d'Emmanuel Macron, mais là où
c'est
je vous rejoins...
C'est la flexi-sécurité, c'est ce que disait Manuel Valls.
C'est la flexi-sécurité, ouais. Non, mais c'est aussi ce que défend Emmanuel Macron.
Oui, mais Manuel Valls se disait, bon, qu'on prend le Premier ministre.
Pardon, ce que disait aussi Manuel Valls, vous avez raison. Donc, qu'on peut faire le procès, et là, je le lui fais à Emmanuel Macron, qu'il a des idées, qu'il a des arguments pour les faire passer. En revanche, il n'a pas le vocabulaire pour faire passer son discours, ses idées, son programme et son projet.
Paul Quignot.
Je voudrais juste aussi poser la question à mon voisin, de savoir si le programme de Marine Le Pen, si elle était élue, profiterait aux gens qui souffrent aujourd'hui et qui effectivement ont des bonnes raisons de se plaindre.
Mais bien évidemment que non. À partir de là, si vous voulez, moi ce que je vous dis, c'est quand la dynamique qu'incarne Emmanuel Macron et qui est en œuvre dans le pays depuis longtemps. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une franche rupture. C'est et d'ailleurs, il a été dans le gouvernement précédent. C'est la suite de différents cycles, de différents types de politiques de l'offre, etc. Voilà. Moi, je pense que ça contribue à fracturer notre société, que ça contribue à augmenter les inégalités, et ce faisant, que ça contribue à nourrir le Front National. Est-ce que le Front National est une solution à ça? Évidemment non. On l'a vu à Amiens. Marine Le Pen n'a pas de solution.
Donc
etc.
On fait quoi
Jean-Luc Mélenchon en a plus d'après vous, pas?
Bah oui, mais si vous voulez, il est plus en lice.
Bah non.
Alors j'estime que oui. Non, mais on peut débattre de nos positions.
Non, pour vous, la solution, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Non, oui,
bah là, même dans votre solution, on peut pas s'y retrouver.
Nicolas
de toute façon,
s'y retrouve, lui.
Elle est plus en lice. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle n'est plus là. La question, c'est que des gens dans notre scrutin à deux tours se posent la question au deuxième tour de ce qu'ils vont faire, puisqu'ils sont à peu près 60% à pas avoir voté pour les deux partis en lice. C'est quand même assez logique. Si vous voulez, on peut trouver ça normal qu'il y ait des gens qui dédoutent, qui soient perdus, qui éventuellement, alors là, se retrouvent dans une position aussi extrême que ça, bien entendu, que mettre sur le même plan. Mais ça semble tout à fait normal, si vous voulez, qu'il y ait des gens qui se posent cette question.
J'allais juste dans votre sens, hein, puisqu'il y a 69% des Français, selon une étude, qui se déclarent insatisfaits du second tour. Voilà, en tout cas, donc ça rejoint un petit peu le pourcentage que vous donniez. Allez, on y revient dans un instant, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
L'arrestation a eu lieu non loin de Westminster, théâtre de l'attaque du 22 mars. La police britannique a interpellé un homme armé soupçonné de vouloir commettre des actes terroristes. Au moment de son arrestation, le suspect d'une vingtaine d'années avait des couteaux sur lui. Il n'y a plus de menace immédiate, précise ce soir la police britannique. 41 écoles primaires et 6 crèches sont concernées. 300 enfants victimes de vomissements et de nausées à Rouen et Bois-Guillaume en Seine-Maritime. Symptômes qui laissent penser à une intoxication alimentaire massive. Il est recommandé aux parents qui constateraient des problèmes de santé chez leurs enfants dans ces deux communes d'appeler le SAMU ce soir au 116-117. À Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon, des milliers de personnes ont défilé aujourd'hui au cri de ni Le Pen ni Macron, avec un mot d'ordre, le hashtag on vaut mieux que ça. Quelques incidents avec les forces de l'ordre, les manifestants ont brièvement envahi les voies de la gare SNCF à Rennes notamment. Le cortège a été dispersé par les gaz lacrymogènes. À Paris, des lycées ont détérioré du mobilier urbain entre la place de la République et la place de la Bastille. On apprend ce soir que le parquet national financier a ouvert en 2016 une enquête préliminaire sur l'attribution des Coupes du Monde de football 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Joseph Blatter, ancien président de la FIFA, a d'ailleurs été entendu ce mois-ci. L'enquête est notamment ouverte pour corruption privée, association de malfaiteurs et trafic d'influence. On ne sait pas encore pourquoi la justice française s'est saisie de l'affaire.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des positionnements par rapport à Emmanuel Macron et notamment Marine Le Pen. Alors, il y a des cas assez étonnants. David Desgoules, est-ce qu'on voit alors certains partis ou syndicats qu'il faut faire barrage au Front National, mais sans jamais prononcer le nom d'Emmanuel Macron, par exemple comme chez les Républicains hier, Nicolas Sarkozy, lui, l'a écrit, mais le communiqué des Républicains, il n'y a pas le nom d'Emmanuel Macron. Plus étonnant aujourd'hui, c'est la conférence des évêques de France, qui, contrairement à 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié au second tour, qui a décidé de ne pas se positionner entre les deux candidats qualifiés au premier tour. Est-ce que finalement, vous comprenez, vous, toutes ces tergiversations par rapport à Emmanuel Macron ? C'est-à-dire qu'on ne veut pas citer son nom, pour certains. On dit on fait barrage au Front National, mais on ne cite pas le nom. Est-ce que ça vous étonne ?
Oui, en fait, tout le monde est un petit peu déboussolé. Et on assiste donc à des contorsions. Sur l'abstention... Aujourd'hui, l'abstention, on assiste à une culpabilisation de l'abstention. Oui. Et on vise notamment aussi Jean-Luc Mélenchon sur le fait qu'il ne veuille pas donner son vote. Moi, je l'explique d'une manière qu'il ne veut pas donner son vote. C'est-à-dire qu'il a récupéré dans la dernière ligne droite un certain nombre de voix, notamment dans la jeunesse, on en a parlé, mais aussi chez les ouvriers.
De
Marine Le Pen. Donc, ces électeurs-là, il n'a pas envie de les perdre définitivement en prononçant le vote Macron.
Voilà. Alors justement, on va y venir, justement, ces abstentionnistes. Vous en avez assez des dîners mornes, hein, des soirées où il ne se passe pas grand-chose, des déjeuners du dimanche, où toute la famille mastique en silence. Un conseil pour mettre de l'ambiance, dites que vous allez vous abstenir le 7 mai prochain. Hurlement, déchirement, bannissement, le devoir civique est devenu un sujet de conversation des plus tendus. Hier, l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, officiant sur France Inter, a préféré démissionner suite à l'accueil très frais sur une chronique faisant l'apologie de l'abstention. Peut-on s'abstenir au moment où un parti extrémiste atteint le second tour des élections présidentielles ? Mais si l'on ne cautionne aucun des deux, l'abstention est-elle une solution ? C'est en tout cas ce qu'a choisi Annick. Elle est employée de mairie à Marseille.
On a l'impression que ce président a dit pendant 5 ans « Je sais que je fais une politique dont vous ne voulez pas, mais de toute façon, dans 5 ans, vous n'aurez pas d'autre possibilité que de reconduire cette politique ou de vous taper le Front National. Donc je vous coincerai. » Eh bien, moi, on ne me coince pas.
Voilà, donc une employée de la mairie de Marseille, Paul Quignot, on sent bien en ce moment, en effet, on le dit depuis tout à l'heure, que l'abstention est un sujet qui va au-delà du simple dire « allez voter ». On sent bien que ça peut être même un réflexe politique pour certains pour dire « voilà, il y en a assez ».
Oui, bien sûr que l'abstention est une arme politique. Et c'est tellement une arme politique qu'elle est effectivement dangereuse dans ce scrutin. Parce que s'il y a effectivement beaucoup d'abstention chez les électeurs de gauche, chez les électeurs de Mélenchon, ça favorise évidemment à l'arrivée ou en tout cas ça augmente le risque de Le Pen vainqueur le 7 mai. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu en colère sur cette confusion et notamment c'est encore plus grave à gauche qu'à droite d'une certaine manière, et c'est là où j'ai du mal à suivre Jean-Luc Mélenchon, qui a fait de toute sa vie un combat contre l'extrême droite, qui a fait une très belle campagne. Certes, on peut comprendre cette déception, mais je ne comprends pas, y compris, surtout, même s'il est dans ce type de calcul que vous évoquiez tout à l'heure sur voilà les électeurs qu'il a gagnés et qu'il veut garder pour le coup d'après, mais si Marine Le Pen est élue, il n'y aura pas de coup d'après pour Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il n'y aura pas tout de suite. Donc c'est là où je trouve que une attitude de s'il est dans une attitude de calcul politicien pour sauvegarder quelque chose pour l'après, je trouve que c'est grave.
David Desgoules.
Je pense que c'est à Emmanuel Macron de convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas à Jean-Luc Mélenchon de donner son vote.
Oui,
Emmanuel Macron, de toute façon les consignes de vote aujourd'hui, les gens ne les écoutent plus. J'étais hier dans les studios voisins de Sud Radio.
Bravo.
Et il se trouve qu'on avait un débat sur les consignes de vote. Il y a eu 96%, il y a eu une consultation pendant l'émission, 96% des gens refusent les consignes de vote. Donc la manière, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, pardon, de récupérer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ce serait par exemple de renoncer à fonctionner par ordonnance pour sa super loi.
on l'a entendu déjà ce soir quand on voit qu'Emmanuel Macron voudrait des sanctions contre la Pologne, oui, là où risque d'être délocalisé Whirlpool, ou sera d'ailleurs normalement.
C'est comme ça qu'il va, à mon avis.
Séduire davantage ce vote-là, Nicolas Framont.
Bah oui, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon qui a été beaucoup critiquée, parfois, j'estime, avec beaucoup trop de virulence. C'est une attitude déjà qui prend acte de déshérence des partis traditionnels. C'est quelqu'un qui ne donne pas de consigne de vote parce qu'il sait que ça ne fonctionne pas. Pourtant, ce qu'on voit actuellement dans les sondages, c'est qu'il y a peut-être 60%, voire plus, des gens qui ont voté Mélenchon qui vont voter Macron, de toute façon. Ensuite, il a organisé une consultation, ce qui a beaucoup choqué, mais qui me semble, moi, être une attitude plutôt saine, précisément, qu'il encourage...
Juste une chose, Nicolas Framont, on a eu le sentiment, moi, je dois vous dire, beaucoup de gens, moi, j'étais dans une soirée électorale dimanche soir, il y avait un petit côté, on l'a tous ressenti, un peu mauvais joueur. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu comme ça, c'est-à-dire qu'après, il y a eu la démarche politique, mais il y avait un petit côté, on a perdu, c'était pas normal qu'on perde, et on est vexé.
Alors, il était déçu, il était sans doute vexé. Ouais. Après, quelle est sa stratégie et son état d'esprit, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est sain, à un moment où les choses ont évolué depuis 2002, etc., d'avoir une réflexion sur la façon la plus efficace de lutter contre le Front National. Et moi, je pense pas que faire ça par réflexe, par impulsion, sans même prendre le temps, beaucoup ne prennent même plus le temps de dire pourquoi le Front National est un problème, alors qu'il faut faire cette critique, etc. Et donc, appeler les gens à avoir cette réflexion sur quelle est la marche à suivre.
Pourquoi est-ce que le pacte républicain... Pourquoi le Front National est un problème ? L'actuel président du Front National, donc qui remplace Marine Le Pen par intérim, a tenu des propos quasi négatifs il y a quelques années. Oui, oui. Donc, c'est pas un problème, ça ?
Non, mais évidemment.
Et on met ça sur le même plan que.
Vous êtes en train de me faire dire. Évidemment que je ne tiens pas du tout une position de défense du Front National.
Sauf que vous mettez sur le même plan un désaccord politique sur une orientation économique et des fondamentaux républicaux.
C'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je fais. Je dis juste.
Si en ne choisissant pas, c'est ce que vous faites.
Eh bien, non, mais vous pouvez faire. Vous voyez, cette stratégie est totalement contre-productive parce que en culpabilisant comme ça les gens, c'est pas du tout comme ça que vous allez réussir à faire l'adhésion vers un projet véritablement républicain, ce qu'il faut arriver à faire si on veut contrer efficacement le Front National. Et cette façon de s'y prendre là, par l'anathème, etc.,
l'anathème. Je vais vous rejoindre sur une chose. Je vais vous rejoindre sur une chose, c'est que je pense qu'effectivement, après le 7 mai, si, je l'espère, Emmanuel Macron est élu, je pense qu'il faudra changer de tactique dans la lutte contre le Front National. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que dans ces 15 jours-là, c'est des arguments que je n'arrive pas à entendre.
Je
suis désolé si je suis un petit peu violent, mais
je pense qu'il faut entendre, il faut discuter.
Alors,
Là où c'est compliqué, alors juste un point sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a le coup d'après, je suis d'accord avec vous. D'abord, on a déjà fait ressortir les points communs qu'il pouvait avoir, mais dans la doctrine d'extrême-gauche dans la tête de l'électorat de l'extrême-gauche, encore une fois, qui, comme Marine Le Pen, est contre l'Europe et contre, encore plus que Marine Le Pen peut-être, contre le capitalisme débridé, contre les banques, contre tout ce qu'incarne pour ces gens-là Emmanuel Macron. Donc il y a une logique de toute façon presque idéologique à ce que peut-être Jean-Luc Mélenchon, qui depuis 2002, encore une fois, il était socialiste, il est devenu ce grand leader d'extrême-gauche, il est parti, il a quitté en 2008-2009 pour fonder le parti de gauche, etc. Mais encore une fois, oui, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon va se présenter aux législatives. En tout cas, il veut présenter des candidats France Insoumise avec le Parti communiste et s'il peut. Donc ce qu'il veut, c'est préparer le terrain pour les futures législatives qui ne seront pas dans 5 ans, qui seront dans un mois. Alors lui, il se dit comment soutenir à donf, si je puis dire, à fond complètement Monsieur Macron, dont en plus il ne se sent pas des atomes crochus idéologiques.
Oui, bien sûr.
Dans un mois ou dans moins d'un mois, ces candidats doivent commencer une campagne sur le terrain, vraisemblablement contre les candidats, d'En Marche.
On va continuer à parler de l'abstention dans un instant. Jeannick Halimi à donf, n'hésitez pas. Allez, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Des manifestations anti-FN et anti-Macron à Paris et à Rennes, notamment aujourd'hui. Dans ces deux villes, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre, des projectiles lancés sur la police et du mobilier urbain dégradé dans la capitale. À Paris, quelques centaines de lycéens se sont retrouvés place de la République pour dénoncer l'affiche du second tour. Une vingtaine de lycées ont été perturbés ce matin, 300 manifestants également à Nantes, des centaines à Toulouse, Lyon ou encore Clermont-Ferrand. Et quel que soit le résultat du deuxième tour, le Front National devra s'expliquer dans l'affaire des assistants au Parlement Parlement européen, soupçonné d'emploi fictif. L'institution estime que le préjudice potentiel s'élève à 5 millions d'euros. 17 élus, dont Marine et Jean-Marie Le Pen, Louis Alliot, Florian Philippot et plus d'une quarantaine d'assistants sont visés par cette enquête. La police a retrouvé des couteaux sur lui. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un acte terroriste. Un suspect de 27 ans arrêté tout près de Westminster à Londres, lieu de l'attentat du 22 mars. Un périmètre de sécurité a été mis en place, mais la police britannique précise qu'il n'y a plus aucune menace ce soir. Les ministres européens des Affaires étrangères, tous d'accord sur les principes qui vont guider les négociations avec le Royaume-Uni sur le Brexit. Un principe directeur a été retenu, parvenir à un résultat juste et équitable pour tous les États membres et maintenir l'unité et la confiance parmi les 27. Ces grandes lignes seront soumises ce samedi aux chefs d'État et de gouvernement lors d'un Conseil européen extraordinaire.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on connaît l'affiche du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, mais il y aurait aussi un troisième peut-être concurrencé, l'abstention, bien sûr, toujours une abstention qui peut prendre aussi un détour politique, à droite comme à gauche. Et il y a une question, Paul Quignot, qu'on peut se poser, c'est qu'il y a toute une génération marquée par 2002, qui est toujours en âge de voter, bien sûr, et qui n'a vécu qu'avec le vote utile. Il est vrai qu'il y a ça aussi, qu'avec le vote utile, et c'est eux aussi qu'on entend aujourd'hui, qui disent on en a marre en fait finalement aujourd'hui du vote utile, qui sont tentés par cette abstention. Est-ce qu'il y a un moment, cette histoire de vote utile, de front républicain, ça n'a pas empêché, ce que dit Nicolas Framont aussi, toute cette réflexion finalement politique par rapport au Front National?
Le Front républicain, il a empêché quoi? Il a empêché, dans certaines régions, le Front national de prendre les rênes de l'Assemblée régionale. Le Front républicain, en 2002, il a empêché Jean-Marie Le Pen de gagner. Donc le Front républicain, il a permis qu'en France, il n'y ait pas, au-delà de certaines municipalités, d'exécutifs départementaux, régionaux et de grandes villes qui soient dirigés par des élus frontistes. Et je pense qu'à l'arrivée, c'est une bonne chose. Et même si, effectivement, je trouve que l'attitude, par exemple, de Christian Estrosi aujourd'hui est assez digne. C'est-à-dire que Christian Estrosi, il est resté à la tête de la région PACA grâce aux voix de gauche au moment des régionales. Et ben voilà, il a aujourd'hui une attitude assez digne. Et le front, on dit le Front républicain marche pas. Si, le Front républicain marche. Il a empêché en France depuis 15 ans d'avoir des exécutifs extrémistes.
Jean-Yves Kélim.
Le problème quand même, parce que j'entends tout à fait ce que dit Nicolas Framont. Alors je ne parle pas des ouvriers du socle de l'électorat Le Pen. On en a parlé abondamment, mais revenons à ces jeunes ou à ces gens qui hésitent, qui pourraient s'abstenir cette année, dans 5 ans, ne plus s'abstenir. Tenir et voter pour Marine Le Pen. Mais revenons aux jeunes. Oui. Les jeunes, ils avaient quoi? 3 ans, 4 ans en 2002. Ils n'ont pas toujours cette culture, cette histoire que nous, on a pu acquérir sur la Deuxième Guerre mondiale et même sur les Suds. Et ce qui rend compliqué le démontage du Front National et de Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen, il ne faut pas oublier, en vitrine, mais à dédiaboliser le Front National.
C'est une génération qui ne connaît que Marine Le Pen, qui ne connaît pas Jean-Marie Le Pen.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Chez les jeunes, Jean-Marie Le Pen, ils ne connaissent pas, c'est le père dans le meilleur des cas. Il l'a viré, Marine Le Pen, on ne peut pas, en tant que telle, ne peut pas être taxée d'antisémitisme qui, évidemment, dresser toutes les herses morales et politiques en France et encore ailleurs, encore pendant un certain temps. Marine Le Pen, on peut la taxer peut-être de xénophobie, voire d'anti-islamisme. Et encore, elle est sur la crête. Elle parle quand même beaucoup, beaucoup, même si je trouve que c'est beaucoup plus ambigu, on est d'accord, mais d'islamisme radical, de lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme.
On sait très bien pourquoi elle a voulu récupérer la laïcité. C'est vrai que...
Oui, voilà pour quelle raison elle conquiert la laïcité, mais d'ailleurs avec quelques succès, sûr, et même d'un point de vue républicain et d'éthique et de morale. C'est compliqué, plus compliqué aujourd'hui qu'en 2002, de démonter et de faire un front républicain contre Marine Le Pen, ou alors il faut avoir des arguments extrêmement balèzes, extrêmement audibles, qui va au-delà, je pense, il y a quelques individus, au sein du Front National qui continuent à avoir des postures d'extrême droite, racistes, antisémites, xénophobes, etc., etc. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin.
C'est pas anodin.
Bien sûr que ce n'est pas anodin. Bien sûr, c'est évident. C'est pas Marine Le Pen qui les tient. Je veux parler
de la Jeune Calimi. C'est l'actuel président du Front National.
Je parle pour des jeunes.
Nicolas Framont, est-ce que c'est ça, voilà aussi, c'est cette posture finalement de Marine Le Pen, ce Front Républicain difficile à construire aujourd'hui beaucoup plus qu'en 2002, car c'est Marine Le Pen avec ce qu'elle a essayé de faire sur le dépoussiérage, enfin essayer de un nouveau vernis en gros sur Front National.
Je ne sais pas si le dépoussiérage a marché. Par contre, il y a quand même eu un déplacement des thématiques sur lesquelles elle a été la plus audible. C'est-à-dire que finalement, par exemple, Marine Le Pen, elle est pour l'abrogation de la loi Taubira du mariage homosexuel. Bon, on en entend très peu parler. Elle en parle elle-même très peu. Finalement, c'est
elle n'a pas été manifestée contre.
Non, mais c'est que sa frange radicale, c'est notamment sa nièce qui en parle, etc. Marine Le Pen, elle a parlé de l'Europe, elle a parlé de la question sociale, etc. Alors que pour autant, elle n'a jamais renié ce fond d'extrême droite. Donc évidemment que c'est plus compliqué. Et il faut voir aussi que, enfin, moi, par rapport à la stratégie de lutte, là où je dis qu'il faut l'interroger, c'est que je constate que il y a eu un réflexe, c'est comme ça que je l'ai ressenti du moins, qui a été de la part de ceux qui luttent contre le FN de tout de suite se tourner vers les potentiels abstentionnistes en disant surtout le faites pas. Et quasiment, on se tourne même plus vers les électeurs Front National en leur disant ne votez plus Front National. Et il faut voir que les électeurs Front National, à la base, quand on regarde les grandes enquêtes de valeurs en France, les gens qui ont vraiment des opinions racistes, par exemple, c'est 10 à 15% de la société. L'électorat Front National, ça dépasse ces 10 à 15%. Donc, il y a quand même beaucoup de gens à récupérer en rappelant ce que c'est le Front National, ce que ça a toujours été, en rappelant les fausses solutions qu'il a sur la question sociale, sur la question européenne, etc. Et donc, pour moi, c'est vers eux prioritairement qu'il faut se tourner là dans les deux semaines à venir plutôt que sur les abstentionnistes qu'on culpabiliserait.
Allez, ça doit se terminer et ça s'est terminé même par un. Vous êtes d'accord, c'est formidable. C'est beaucoup d'amour finalement, les informés de France Info. Merci beaucoup, David Esgoud, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci, Nicolas Framont. Un petit coup d'œil une de chacun. Paul Quignot, la une de l'Obs cette semaine.
Un choc de France.
Voilà, et demain, la une du Parisien aujourd'hui en France.
Le Pen, Macron, la guerre des images.